ça c'est un tip que je donne aux boîtes qu'on a pu accompagner sur le setting, et c'est quelque chose que j'applique pour Scalesia. Ça va être, voilà, je trouve un prospect intéressant, ça y est, il est dans mon premier réseau, je vais aller sur son site en fait, et volontairement, je vais regarder...
Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute. Alors avant de commencer l'épisode, laissez-moi vous parler d'une nouveauté sur Vendu qui pourrait bien changer la donne pour vous et votre équipe. Une étude a démontré dernièrement que près de la moitié de vos deals sont perdus juste après le premier rendez-vous. Dans un contexte économique difficile, associé à un marché saturé, vos taux de conversion vont fortement dépendre de votre capacité en interne à réussir vos rendez-vous commerciaux, mais aussi à surmonter l'indécision de vos prospects. Pour augmenter votre taux de closing, j'ai créé les Review Sales Meetings. C'est une solution directement inspirée de mon expérience de directrice commerciale ayant signé près de 3000 clients de taille et de secteurs différents. En fait, j'accompagne les commerciaux en leur fournissant des conseils sur mesure pour chaque étape du rendez-vous et un plan d'action pour implémenter mes recommandations. Comment je fais? J'écoute tout simplement les enregistrements de leur rendez-vous et j'en tire une analyse complète. Alors si vous souhaitez améliorer les techniques de vente de vos commerciaux, lancer une nouvelle offre ou démarcher un nouveau segment, rendez-vous sur www.vendu.fr, cliquez sur « Faire analyser mes rendez-vous » et laissez-vous guider. Allez, on va retrouver notre invité. Je vous souhaite une bonne écoute. Ok, aujourd'hui je suis avec Flavien Villeneuve, qui est setter chez Scalesia. Pour ceux qui connaissent pas ce mot ou ce que c'est ce job, vous en saurez beaucoup plus en écoutant cet épisode. Salut Flavien, comment tu vas ?
Écoute, ça va très bien, très content d'être ici.
Bah très cool. Alors, je préviens les auditeurs, tu as un petit problème de gorge, voilà. C'est les aléas du podcast. Donc c'est ça. Voilà. Peut-être que parfois, il aura un petit peu de mal, mais en tout cas, je pense que l'épisode va être très, très cool. Je suis très contente de te recevoir, en fait, parce que on va parler d'un sujet dont on parle très, très peu, en fait, dans la partie sales. C'est le setting. Tout simplement parce que c'est une pratique qu'on voit beaucoup plus dans le e-commerce ou en tout cas chez les infopreneurs et beaucoup moins en B2B. Ouais. Sauf que ce qui est vraiment très cool, c'est que Scalesia a intégré en fait un nouveau pôle, un pôle setting dont tu es à la tête et sur lequel tu te fais la main parce qu'effectivement, on verra que c'est très itératif. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter un peu ton background sales et montrer justement comment tu es arrivé à ce job de setter?
Yes, alors moi je viens plutôt d'un milieu donc de la comptabilité et de la gestion, donc j'ai fait 6 années d'études dans ce milieu-là. J'ai eu une expérience dans un cabinet d'expertise comptable et en gestion de patrimoine, donc vraiment loin de cette partie plus commerciale. Donc j'ai rejoint Scalesia il y a un peu plus d'1 an où j'ai fait vraiment la bascule sur cette partie commerciale. Comment je suis arrivé sur le setting, c'est un petit peu de manière hasardeuse. C'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs le head of sales de Scalesia, Jules Gardère. Donc j'avais suivi une formation sur l'immobilier quand j'étais encore étudiant. J'ai rénové un appartement, j'ai acheté un appartement et en fait j'ai beaucoup documenté cette partie-là sur un compte Instagram que j'ai développé et en fait je faisais de l'affiliation. Sur cette formation, donc c'est-à-dire que je faisais du contenu, je mettais des stories, et les personnes qui interagissaient avec mes stories, j'allais leur envoyer un message en privé pour leur parler de mon parcours, de la formation que j'avais suivie, ce que ça m'avait apporté, et derrière, si jamais la personne closait achetait cette formation, moi j'avais une commission sur les ventes, en fait. Donc c'est vraiment, je faisais du setting sans vraiment m'en rendre compte, même si là, la finalité, je n'allais pas booker un rendez-vous découverte, ce qui est vraiment, c'est vraiment ça le setting, c'est d'aller booker un rendez-vous avec un sales. Moi j'allais vraiment jusqu'au bout de la vente. J'accompagnais la personne en lui montrant ce que c'était, tout ça, pour qu'elle se lance dans cette formation. Donc c'est vraiment un petit peu de manière hasardeuse que je suis tombé là-dedans. C'est comme ça que j'ai rencontré Jules et on échangeait beaucoup sur les réseaux sociaux et il m'a parlé de la volonté de développer le setting, ce que c'était. Il a mis des mots sur ce que je faisais en fait quand j'étais encore étudiant et donc la volonté de créer ce pôle chez Scalesia.
Trop bien, génial. En fait, d'ailleurs, tu vas en parler un peu plus en détail, mais une des raisons pour lesquelles Scalesia a souhaité mettre en place un pôle setting, c'était notamment parce qu'il y avait une grosse traction sur les comptes de Benoît Dubot, qui est le CEO de Scalesia, Jules Gardère et Christian aussi également, qui est COO. Et donc, du coup, en fait, énormément d'interactions sur les réseaux sociaux, donc énormément de gens qui demandent à être connectés à ces 3 personnes, énormément de discussions à avoir, etc. Et à un moment donné, c'est énorme. Genre, c'est un peu les conséquences de faire beaucoup de contenu, d'être très visible, d'avoir un beau branding. Mais ensuite, il faut gérer tout ça. Du coup, ce que j'aimerais justement, c'est qu'on commence par expliquer c'est quoi le setting.
Ouais. Alors le setting, donc, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une pratique qui nous vient des États-Unis, hein, pour changer. Donc en fait, ça consiste à booker un rendez-vous découverte. Donc il y a différents types de settings. Il va y avoir le setting via du call ou du setting via de l'écrit. Donc la plupart du temps, quand on parle de setting, on parle vraiment de setting écrit. Mais ça marche aussi pour du call. Je prends un exemple. J'organise un webinaire sur un sujet. J'ai tant d'inscrits sur ce webinaire et à la fin de ce webinaire, je vais rappeler les prospects un par un pour justement, enfin les personnes qui étaient présentes pour booker un rendez-vous découverte avec mes sales. Donc ça, c'est une pratique qui se fait, mais c'est pas forcément celle qui est la plus connue. Vraiment, c'est ce qui est le plus connu, c'est vraiment le setting par écrit. Donc il y a deux types de settings. Il va y avoir l'inbound setting et l'outbound setting. Donc l'inbound setting, en fait, ça va consister à engager des conversations avec des personnes qui ont suscité un intérêt. Ça peut être pour nous en tant que personne physique, ça peut être pour son entreprise ou pour son produit. Et donc, tous ces points d'intérêt, en fait, ça va être par exemple un like suite à un post, un commentaire, un repost, un follow, une demande de relation. Et en fait, c'est exploiter tous ces petits points de contact-là pour engager une conversation en privé. Donc voilà ce que c'est l'inbound setting. Et après, il y a la partie outbound setting. Donc c'est la même chose. La finalité reste la même, c'est de booker un rendez-vous avec les sales. Mais c'est pour des prospects froids qui ne nous connaissent pas, ni nous, ni notre entreprise. Donc voilà, sur cette partie-là. Okay. Donc si on peut peut-être un petit peu résumer ce que c'est, notamment la partie inbound setting. En fait, on vient prendre par la main des prospects qui nous connaissent. Ils nous connaissent peut-être nous en tant que personne physique ou ils connaissent notre entreprise, mais ils ne sont pas encore assez matures pour aller sur notre site, prendre un rendez-vous découvrir vraiment ce qu'on fait. Donc l'idée là, c'est de les prendre un peu par la main, d'aller engager une conversation avec eux de manière un peu désintéressée. L'idée, c'est vraiment que le prospect ne ressente pas l'aspect prospection et de les envoyer en rendez-vous. Donc c'est vraiment le prendre par la main et l'envoyer doucement en rendez-vous pour le faire rentrer dans le process commercial en fait.
Ok, nickel. Je vais te poser du coup une question qu'à mon avis, beaucoup de personnes vont se poser. C'est quoi justement la différence entre le setting et la prospection écrite ?
Quand tu parles de prospection écrite, j'imagine que tu fais référence à l'outreach LinkedIn, par exemple.
Exactement. Exactement. L'outreach LinkedIn, l'outreach email aussi également. Quelles sont vraiment les différences en fait, qu'il peut y avoir entre le setting et la prospection écrite ?
Ouais, alors la prospection écrite, donc il va y avoir par exemple l'outreach LinkedIn ou le mailing. Quand on parle d'inbound setting, donc encore une fois, c'est des personnes qui ont déjà suscité un point d'intérêt pour nous. Donc ça va être suite à un like, un commentaire, un follow, etc. Donc tandis qu'en outreach LinkedIn ou en mailing, ça va vraiment être des prospects froids qui ont suscité aucun intérêt pour nous. Ça, c'est une première différence. Et sinon, ça va vraiment être l'approche personnalisé. Donc on parle d'account based management aussi. Donc là l'idée ça va vraiment être c'est pas d'envoyer prendre 200 prospects sur Wallaxy et de les balancer faire tourner avec le même message. En tout cas, c'est notre définition du setting chez Skelesia, c'est vraiment d'aller faire des messages personnalisés, notamment le premier message qui est l'icebreaker, où là, c'est le message le plus important, parce que la première victoire, c'est d'avoir une première réponse en setting. Donc là, on vient vraiment faire un message personnalisé, et pour que ça résonne dans la tête du prospect, quand je fais du setting, et le setting qu'on enseigne à nos clients, on pose une question qui est volontairement un peu floue, pour que le prospect se dise « Ok, encore une fois, faut se mettre à la place du prospect. Si je reçois ce message-là, est-ce qu'il m'envoie ce message parce qu'il est intéressé par mon produit ? Est-ce qu'il veut me proposer un partenariat ? En fait, on pique trop sa curiosité pour qu'il nous laisse juste en vue. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à avoir. Donc, pour répondre à ta question, la différence entre le setting et plutôt de l'outreach LinkedIn plus automatisé, ça va vraiment être le degré de personnalisation et de non-automatisation qu'on va mettre dans les messages.
Ok, nickel, très très clair. Alors du coup, j'ai envie de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, comment ça marche, du coup, et en me basant un peu plus sur ton expérience et ce que tu fais en fait au quotidien. Justement, en fait, comment on fait du setting ? Déjà, peut-être parler des canaux, mm-hmm. T'as un peu parlé des critères en fait, effectivement, quelqu'un qui like, quelqu'un qui commente, etc. Est-ce que tu peux nous dire tout simplement comment tu fais en fait, comment tu démarres ?
Ouais. Alors, le setting, initialement, c'est quelque chose qui est très B2C dans le milieu de l'infoprenariat. Je prends un exemple. Je vends des formations sur un tel sujet. J'ai un groupe Facebook. Je fais une demande d'adhésion pour entrer dans ce groupe Facebook. Et bien derrière, j'ai un setter qui va m'envoyer des messages pour me préqualifier, éventuellement m'envoyer un rendez-vous. Donc, c'est quelque chose qui est assez peu pratiqué en B2B. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment... en France, on a encore très peu à le faire. C'est quelque chose qu'on développe. On a accompagné des clients aussi là-dessus. On voit que ça fonctionne, que ça fonctionne très bien. Donc comment ça marche concrètement? Il va y avoir deux parties. La partie inbound setting et la partie outbound setting, encore une fois. Donc concrètement, ça va être un travail journalier. C'est beaucoup d'organisation parce que donc moi, je gère 4 comptes différents. J'ai le mien, celui de Benoît Dubos, Jules Gardère et Christian François. Donc ça va être en fait de gérer chacun de leurs comptes, d'aller voir donc tous les nouveaux followers qui se sont ajoutés. Si c'est des personnes qui sont dans notre ICP, donc Scalesia, ça va être des CEO, des co-founders, voir s'ils ne sont pas déjà dans notre base de clients. Donc leur envoyer un message, par exemple, Hello X, j'imagine que tu m'ajoutes... suite à mon post de ce matin sur X sujet, j'ai été faire un tour sur ton site. Donc, si j'ai bien compris, votre solution, c'est que pour tel type d'entreprise. En fait, voilà, c'est ce type de question un peu flou que j'ai imposé au prospect. Donc, ça va être un travail vraiment quotidien d'aller voir les personnes qui ont, enfin, sous les posts, les personnes qui ont commenté, les likes, toutes les demandes de relations. Et ça, multiplié par le nombre de comptes et toute la création de contenu qu'on a. Donc, voilà comment je m'organise. Mais après, nous, donc dans les entreprises qu'on accompagne, on n'est pas tous Scalesia avec la traction qu'on peut avoir sur LinkedIn notamment. Assez peu de personnes ont une communauté avec autant d'interactions à gérer. Donc, il va y avoir la partie plutôt outbound setting. Donc, l'idée, ça va être exactement la même chose que je viens d'expliquer sur la partie inbound. Hello X, là, on va juste faire sauter la première partie. Je t'envoie ce message suite j'imagine que tu m'ajoutes suite à mon post sur tel sujet. Ça, on vient faire sauter cette partie-là. On vient passer directement à Hello First Name. J'ai été fait un tour sur votre site. Donc, ce que vous faites, c'est en gros, c'est ça. Donc, pour piquer la curiosité du prospect. Mais sauf que pour ça, donc, ce qu'on invite nos clients à faire, c'est de le faire déjà pour leur premier réseau, donc voir dans leur ICP, dans le premier réseau, qui peut être des clients potentiels. Souvent, le réseau n'est pas forcément assez développé. Donc, ce qu'on met en place souvent pour avoir un flux suffisant, c'est qu'on met en place du Wallaxy, en fait, où on vient faire tourner des campagnes, où on vient ajouter un maximum de personnes qui sont dans notre ICP, enfin, dans l'ICP des clients, pour derrière avoir un flux de personnes à contacter. Parce que le souci avec LinkedIn, donc là pour vraiment parler de LinkedIn, c'est que si on n'est pas en relation avec la personne, on ne peut pas lui envoyer un message, ça passera en email et on est limité. Et on sait que les emails, on a un taux de réponse qui est assez faible. Donc voilà. Mais après, je parle de LinkedIn parce que nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Mais pour quelqu'un qui fait du contenu sur Instagram, on a accompagné aussi une entreprise qui fait beaucoup de contenu sur Instagram. Ils font des publications. Donc, il y a des personnes qui likent, qui commentent, qui commencent à follow leur compte. Eh bien, c'est la même chose. Enfin, peu importe le réseau, en fait, il faut aller là où vos clients sont et engager des conversations suite donc soit à des publications, enfin des interactions, ou sinon vraiment du prospect froid en allant les contacter via de l'outbound, en fait.
Ok, ce que je note en fait dans ce que tu dis, c'est que en fait, et c'est assez assez intéressant, c'est que ta première approche est une approche où en fait tu parles directement du prospect. Tu parles pas en fait comme on peut voir dans certaines séquences outreach où on va parler du problème que la personne a, etc. Tu es sur un niveau très basique, je trouve, mais qui est intéressant, qui est une prise de contact en fait comme on pourrait l'avoir sur un réseau social auprès de quelqu'un avec lesquels on a envie d'échanger, qui est « Ok, bah, j'ai vu que tu fais ça, est-ce que c'est bien ça, est-ce que j'ai compris ?» etc. Sans rentrer dans un truc où parfois on peut rentrer, c'est un peu le défaut, hein. En outreach, on peut commencer à vouloir rentrer sur « Oui, les gens comme vous ont tel problème, etc. » Je suis la première parfois à faire cette bêtise. Du coup, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que tu as itéré ou c'est quelque chose qui est propre en fait au setting où en fait on a un niveau plus basique où on rentre pas tout de suite dans le problème parce qu'effectivement, on va peut-être le dire, mais dans comment ça marche, mais c'est des interactions qui prennent plus de temps. On est beaucoup moins dans. Évidemment, l'objectif, ça reste toujours de prendre un rendez-vous, mais on est sur des discussions en fait sur le long terme.
Alors le setting, enfin, faut vraiment. Le prospect, il ne faut pas qu'il ait l'impression que c'est de la prospection. Il faut qu'il ait l'impression d'échanger avec un autre entrepreneur. C'est pour ça que c'est une approche un peu plus smooth. On va un peu moins direct dedans, même s'il ne faut pas non plus mettre trop de rondeur, notamment sur la partie outbound setting, où les personnes n'ont clairement pas forcément le temps, ne comprennent pas pourquoi on les contacte. Donc, faut pas hésiter à rentrer vite dedans. Mais effectivement, on ne vient pas forcément parler du problème tout de suite. Moi, j'ai une... Ça, c'est un tip que je donne aux boîtes qu'on a pu accompagner sur le setting, et c'est quelque chose que j'applique pour Scalesia. Ça va être, en fait, donc je fais beaucoup moins de quantitatif, c'est vraiment du qualitatif, donc une approche un peu ABM. Ça va être, voilà, je trouve un prospect intéressant, il est dans mon premier réseau, je l'ai ajouté sur Wallaxy. Je vais aller sur son site, en fait, et volontairement, je vais regarder en diagonale le site. Je ne vais pas essayer de regarder tous les onglets et tout ça, parce que déjà, ça prend trop de temps. Et en plus de ça, ça va faire que j'ai une connaissance de ce que le prospect fait, mais qui n'est pas complète. En fait, j'ai compris, mais de manière vraiment floue, ce que la personne fait. Ce qui me permet derrière, d'assez facilement, et à force de le faire en plus, ça se fait de plus en plus rapidement, de lui poser une question un peu floue sur ce que la personne fait. Là, j'ai un exemple que j'avais devant les yeux, parce que j'ai mes conversations setting. C'est « Hello Nathan, j'imagine que tu m'ajoutes suite à mon poste d'hier, bienvenue dans le réseau. » Donc là, c'est de l'inbound setting. Et ensuite, je pose la question « J'ai été faire un tour sur le site de ton agence. Vous faites aussi des LinkedIn ads ?» Donc là, en fait, il faut se mettre à la place de Nathan. Je reçois ce message-là. « Ok, Benoît m'envoie ce message-là. C'est sûrement qu'il a besoin pour des ads, ou ça peut être pour ses clients. » Donc en fait, la personne va forcément me répondre. Donc voilà,
enfin,
c'est vraiment plus du qualitatif que du quantitatif. Et ça, c'est, en fait, il y a deux approches. Il y a celle-ci où c'est vraiment demander un éclaircissement sur le produit de la personne. Je ne mets vraiment pas le focus sur notre solution, vraiment, c'est de faire parler du prospect. Et la deuxième chose, des fois, je tombe sur des sites un peu mal faits où je ne comprends pas trop la proposition de valeur. L'idée, enfin, il y a pour, enfin, j'ai une question un peu bateau, c'est Hello X, j'ai été faire un tour sur votre site. Donc vous faites ça que sur Marseille ou vous faites ça sur toute la France, juste pour que je situe. Et en fait, on se met à la place du prospect, comment ça résonne dans sa tête, c'est ok, lui ça se trouve il habite à Brest et il a un besoin pour mes services, donc je vais lui répondre en fait. Et ensuite, donc le cadre juste pour que je situe, ça vient prévenir un petit peu le pourquoi, mais enfin pour que pas que le prospect pose la question pourquoi, mais s'il pose pourquoi, eh ben, on peut tout simplement dire ah non, c'était simplement pour que je puisse situer. Donc ça, c'est une pratique quand on sèche et qu'on ne sait pas quelle question poser. Demandez la localisation. Est-ce que vous faites ça que sur tel secteur ou sur toute la France? Ça fonctionne bien.
Trop bien. OK. Alors du coup, tu as pas mal parlé justement des approches. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour pouvoir un peu se focus sur les critères. Parce que, OK, par exemple, sur l'inbound sitting... ou même, alors c'est plus facile sur l'outbound setting, mais sur l'inbound setting, tu vas prendre le parti pris de te dire, je vais aller regarder toutes les personnes qui ont commenté les posts, qui ont like les posts, etc. Mais bon, ouais. En fait, ils sont pas tous au même degré, tu vois, et tu peux avoir vite une, surtout en fait, à partir du moment où tu fais du contenu, tu commences à avoir beaucoup de traction, donc tu peux avoir, être assez perdu. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, de la même manière qu'on peut faire, en fait, sur la partie prospection, est-ce que tu as des tiers, par exemple, du scoring que tu mets en place, est-ce que tu as des critères, en fait, justement, pour pouvoir sélectionner les quelles personnes tu vas je parle vraiment de l'inbound sitting parce qu'évidemment la outbound sitting j'imagine que c'est un peu les mêmes techniques que la prospection classique, c'est-à-dire que tu vas identifier des boîtes où tu penses que c'est pertinent par rapport à votre ICP, votre idéal customer profile.
Ouais. Alors non, pas forcément de pratiques particulières. Enfin, notamment sur LinkedIn, c'est souvent écrit dans le nom de la personne s'il est CEO, co-founder, associé. Ce qui fait que d'un simple coup d'œil, en fait, on sait si la personne... Enfin, ça vaut le coup que j'ouvre son profil ou non, en fait. Donc pas vraiment de pratique particulière, juste du visuel à force de... Enfin, si on vend un produit grand public, une formation à 50 euros qui touche toute la population française, forcément, là, on a quelque chose de beaucoup plus large où on peut envoyer un message à tout le monde. Donc là, on peut mettre des automatisations en place. Donc nous, c'est pas le cas. C'est vraiment un produit dédié aux founders et CEO. Et peu importe ce que la personne vend, l'idée, c'est pas d'envoyer un message à tout le monde, parce que sinon, on se retrouve avec des conversations de partout, avec des personnes qui sont pas des prospects, enfin des clients potentiels. Donc pas vraiment. Enfin, l'idée, c'est juste visuellement de voir si ça vaut le coup d'ouvrir le si je peux perdre 5 secondes à ouvrir le profil de la personne ou non.
Pour ça, voir effectivement si c'est la bonne personne, etc. Ok, il n'y a pas de machine en disant ok, je vais contacter principalement avec des intent data. Pour l'instant, on est sur de la discussion avec. En gros, des informations basiques. Ok, il est dans ma cible. A priori, je vais voir si c'est pertinent ou s'il ressemble à mes clients pour entamer une discussion.
Ouais, c'est ça.
Ok. Du coup, ok. Bon, moi là, en fait, je me dis si j'ai envie de faire du setting, là, j'ai envie de me lancer. On a compris un peu certaines choses, mais il manque justement c'est quoi les différentes étapes? Ça, c'est ma première question. Et ensuite, peut-être qu'on parle de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, en fait, justement. Parce qu'au final, c'est déclencher des conversations. Du coup, c'est quoi les étapes? Tu as parlé, en fait, des approches de la première question. Mais ensuite, est-ce que tu as des séquences, des temps, par exemple, tu vas dire pendant 3 jours, je vais laisser reposer, comment tu gères le fait que les gens, silence radio, parce que même dans les gens de notre réseau proche, ça nous arrive d'avoir des gens à qui on écrit, qui nous connaissent, qu'on sollicite pour pouvoir prendre un rendez-vous avec X, Y. Et voilà, en fait, parfois sur la messagerie LinkedIn, ça répond pas forcément facilement. Donc voilà.
Ouais. Alors, oui, le setting, ça implique une grosse organisation, surtout quand on gère plusieurs comptes différents, ça devient vite un gros bazar. Et au début, quand on s'est lancé, vraiment au tout début de ce pôle setting, on s'était dit qu'enfin, on engageait des conversations et en fait, on remontait, on redescendait et on allait relancer les personnes petit à petit. Et sauf que ça devient vite un bazar. Là, dans mon CRM setting, j'ai 3000 personnes, notamment. C'est impossible de... en fait, du coup, on a créé un outil, un tableau en fait qui nous permet de suivre le lead. Donc en fait, quand j'engage une première conversation avec une personne, je mets son nom, son prénom, le statut de la conversation. Donc si j'ai juste envoyé un message, j'ai marqué conv engagé. Si la personne m'a fait une première réponse, elle est en statut en cours. Si la personne ne me répond plus, je la mets en sans réponse et je peux la relancer X mois plus tard. Si c'est la personne est partie en rendez-vous, je la mets en rendez-vous booké. Donc là, c'est entre guillemets, je l'ai closé sur le setting, donc c'est-à-dire que je l'ai fait rentrer en rendez-vous. Donc moi, sur ma partie setting, ça s'arrête. Donc voilà, il y a tout un travail d'organisation déjà sur le lead, le mettre des tags en fait pour savoir où on en est. Et ensuite, bah, va y avoir toute cette partie. Donc pour répondre à ta question, si la personne ne nous répond plus, va y avoir différents types de relances. Moi, ce que j'aime bien, ce qui fonctionne vraiment super bien, c'est l'usage de l'humour. Donc il y a des mèmes et des gifs. Qui fonctionne super bien, le gif de Pablo Escobar, celui de Mr Bean qui attend, ça c'est des choses, ouais. ça fait vraiment marrer les personnes en face, et là on vient vraiment casser la glace, on part de quelque chose où on saoulait la personne parce qu'elle nous répondait plus, et la personne ouvre son téléphone, elle voit ça, elle rigole, là on vient briser la glace et elle nous répond, et on est reparti sur la conversation, donc il y a ce travail-là. Après, en post, une fois qu'on a booké le rendez-vous aussi, il va y avoir un travail de nurturing, parce que le nurturing, ça intervient quand on est dans le process commercial entre le premier rendez-vous et éventuellement une démo sur un second rendez-vous. Mais il y a aussi le travail de nurturing entre le moment où le rendez-vous est booké et le premier contact avec un sales en visio, par exemple. Donc, moi, ce que je fais, c'est que à J+2, après avoir booké le rendez-vous, j'envoie Hello X, on a sorti un article sur X sujet. Ce qui est mieux, c'est si c'est par rapport à un sujet qu'on a parlé dans la conversation, là c'est vraiment un nurturing qui est bien fait et le prospect l'apprécie. Et après, la veille du rendez-vous, Hello X, juste un petit rappel pour notre rendez-vous, savoir si c'est toujours OK pour notre rendez-vous de demain. Donc il y a ce travail de nurturing là. Et ensuite, donc, pour répondre à ta question au niveau du corps de la conversation, alors ça, ça va dépendre du secteur d'activité et des questions qu'on veut poser, parce que tout dépend du niveau de qualité du lead qu'on veut. On peut aussi décider, par exemple, de vraiment pas qualifier son lead, de pas trop lui poser de questions et d'aller plutôt droit au but et de l'envoyer en rendez-vous, mais ce qui implique derrière qu'on a un peu de déperdition sur le premier rendez-vous, le rendez-vous découverte, où on aura des leads moins qualifiés, où on peut se décider de poser plus de questions pour vraiment s'assurer, voilà, bah, le lead, ils sont tant dans la boîte, ils font tant de chiffre d'affaires, ça c'est des informations que j'ai déjà posées, mais ça peut créer un peu plus de friction. Donc il faut trouver le prospect, des fois c'est des questions qu'il n'aime pas trop, ou il en a un peu marre d'être sur son téléphone à répondre aux messages, donc c'est un entre-deux qu'il faut trouver, et ça dépend du degré de qualification qu'on veut. Sinon, sur la structure des messages, l'enchaînement de messages, moi j'ai quelque chose qui fonctionne plutôt bien, ça va dépendre du secteur d'activité, mais pour Scalesia, je fonctionne en plusieurs messages. En fait, ça va être le premier, ça va être que ce soit inbound setting ou outbound setting. Le début, c'est la même chose, hello first name. Donc, si la personne vient de l'inbound setting, ça va être je vois que tu as liké mon post sur tel sujet, comment vous gérez ça de votre côté? Ou si la personne vient de l'outbound setting, donc c'est hello X, je t'ai fait un tour sur votre site, donc vous proposez ça juste pour tel secteur d'activité, ou ça s'applique aussi pour X secteur d'activité. Et là, la personne donne une première réponse. Suite à cette première réponse, en fait, soit on peut rebondir une nouvelle fois sur ce que la personne a dit pour, si on a trouvé un truc intéressant, qu'on a envie de tirer un peu dessus et qu'on est vraiment intéressé par son produit. Et ça évite d'aller trop vite droit au but parce que si on parle directement après cette première question de son produit, il me prospecte, c'est pas vraiment un échange et c'est pas ce qu'on a envie que la personne ressente. Donc moi j'ai une deuxième question qui est un peu bateau. De dire vous êtes donc là vous êtes 13 sur la boîte de ce que j'ai vu ou LinkedIn se plante encore sur les chiffres juste pour que je situe votre taille en fait et ça sur LinkedIn on le voit par exemple la personne s'est marqué 15 employés moi qui soit 15 employés 18 employés 11 employés finalement ça change rien c'est juste pour poser une question un peu smooth avec un peu d'humour d'humour entre guillemets et ça permet d'aller un peu moins vite droit au but pour pas que la personne se sente trop prospectée. Et ensuite, là, c'est notamment les personnes qu'on a accompagnées sur les sprint settings, ils me disaient « Ok, là, j'ai eu deux petits messages, mais je ne sais pas comment faire la transition vers mon produit. »
C'est exactement ça que j'allais te poser là comme question, parce que là, l'approche, je trouve ça hyper smart. Et voilà, après, je prends quand même le temps de prévenir les auditeurs. Je pense qu'il faut trouver en fait un peu sa patte et pas forcément prendre les mêmes choses. Donc, je préfère le dire parce que parfois, autrement, on se retrouve avec des. Peut-être que pour toi, ça marche. Peut-être la manière dont tu l'amènes, la manière dont à qui tu le fais. Comme tu dis, tu as l'expérience. Ouais. Donc, visuellement, ça te permet de pouvoir dire, ok, cette personne-là, je sens que ce message, je sens que cet humour-là, ça peut marcher. Moi, ça m'arrive, par exemple, d'avoir des approches, de me dire, cette personne-là, par rapport à ce que je vois, son ton, comment elle écrit, etc., je pense que cette approche-là, ça marchera pas. Donc, il faut quand même regarder et pas systématiser et reprendre en fait des choses qu'on peut dire. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Mais voilà, moi, justement, c'est ce sujet principal. C'est comment. Alors, ok, tu blablates. Oui, bah écoute, on est 13 personnes, etc. Ok, t'as ta réponse. À quel moment tu parles de Scalésia, là, en fait?
Alors là, du coup, ça va être de faire une phrase de transition. Donc, ça va être à travailler en fonction de votre entreprise, de ce que vous faites. L'exemple de Scalésia, c'est une question que je pose à chaque fois, c'est même si tu connais sûrement bien Scalésia avec tous les contenus qu'on propose pour aider les entrepreneurs, je sais que la partie accompagnement peut être un peu floue vu de l'extérieur. Entrée, je t'explique en deux mots ce qu'on fait. Et là, en fait, il y a deux choses. Déjà, je lui demande l'autorisation de pitcher. Je ne vais pas lui dire, écoute, au fait, nous, on fait ça, on aide tel type d'entreprise, alors que la personne ne m'a rien demandé, on était en train d'échanger. Et là, d'un coup, hop, je lui ponds ça. Là, je lui demande l'autorisation de pitcher. Et surtout aussi, je viens mettre un petit peu, là, c'est pour le cas de Scalésia, je viens mettre Scalésia sur un piédestal en disant, j'imagine que tu connais Scalésia, vu tous les contenus qu'on crée pour aider les entrepreneurs. Donc, si la personne ne connaît pas, pas forcément ce qu'on fait, elle peut se dire, ok, waouh, j'ai peut-être raté un truc, je vais aller checker vite fait ce qu'ils font. Et en termes de posture, d'expertise, ça nous met un peu plus élevé. Donc, voilà cette phrase-là. Et quasiment systématiquement, ça va être oui, pourquoi pas, écoute, oui, éventuellement, ok, avec plaisir. Et là, après, je balance mon pitch et c'est beaucoup plus smooth parce que la personne m'a donné son autorisation. Et là, ensuite, au niveau du pitch, on a un truc qui est pas mal. Donc, c'est alors en deux mots, donc on accompagne les entreprises B2B dans leur croissance. En gros, on fait pas avec vous, on fait pas pour vous, on fait les choses avec vous. En gros, trois possibilités. Ça, c'est ce qui est pas mal, c'est de donner trois possibilités d'entreprise où peu importe votre solution, ou en gros, par exemple, un SaaS, en gros, il y a trois typologies d'entreprises qui ont trois types de problèmes. On fait ça. Donc, nous, ça va être vous faites du chiffre d'affaires, mais vous sentez qu'il y a un plafond de verre, on vous aide à casser ce plafond de verre. Vous faites de la décroissance, on vous remet sur les rails pour réatteindre un bon niveau de croissance, ou vous avez une ambition dévorante, on vous fait gagner quelques années de développement. Et là, encore une fois, pour vraiment écrire comme je parle, je mets là comme ça, d'après toi, tu dirais que c'est laquelle de ces situations qui se rapproche le plus de ta boîte. Et là, la personne, en fait, elle va se dire, volontairement, on vient mettre trois possibilités qui sont un peu généralistes et la personne va forcément s'identifier au moins l'une d'entre elles. Et les personnes ne ressentent pas encore trop l'aspect prospection à ce moment-là. Moi, c'est plutôt la 2 ou je suis plutôt dans le cas 3. De ce que tu me dis, il serait vraiment pertinent qu'on échange ensemble. Est-ce que tu serais OK ou est-ce que tu serais contre le fait qu'un de nos business stratégistes prenne un moment avec toi pour voir si on pourrait éventuellement vous aider sans engagement derrière, hein, juste un premier échange avec un smiley. Et là, la plupart du temps, ça part en rendez-vous. Parce que autre truc, j'ai utilisé le conditionnel. J'ai pas dit, est-ce que tu veux qu'on prenne un rendez-vous pour voir si on peut potentiellement t'aider. J'ai dit, est-ce que tu voudrais qu'on prenne un rendez-vous pour voir si on pourrait potentiellement t'aider. Donc ça, l'usage du conditionnel, ça marche bien en sales en général, mais surtout au moment d'envoyer un rendez-vous, on vient laisser le prospect dans du conditionnel et il se sent moins piégé, il se dit bon, pourquoi pas, je vais y aller, et là il rentre dans le process.
Voilà, okay, pour nickel. Ok, nickel. On parlera à un moment donné, à la fin plutôt, de comment tu gères la partie no-show. On a un peu parlé, mais parce que forcément, il peut y avoir un peu de no-show quand tu fais en fait du volume comme ça. Et c'est la problématique de tous les sales. Alors, tu en as déjà un peu répondu en donnant ton process, mais j'aimerais bien que peut-être si tu pouvais citer un peu les erreurs justement à pas faire et les choses en fait, voilà, les do et les don't que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer sur le sitting.
Ouais, alors la première chose, ça va être plutôt que d'envoyer un gros pavé de messages, ça va être d'envoyer en plusieurs fois. Donc on écrit une ou deux phrases, on clique sur entrée. Enfin, faut pas que la personne reçoive un long message, parce que dans la tête du prospect, c'est waouh, il a bien réfléchi à sa question. Enfin, c'est un peu de l'inconscient, mais il sent qu'il se fait prospecter. Donc visuellement, en fait, si vous sentez, enfin, pour voir si vous performez en setting ou non, c'est si vous posez, vous voyez que vous posez des petites questions ou des petits paragraphes et que la personne vous répond des longs paragraphes. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans votre posture d'expert et la personne, vous avez posé des questions pertinentes parce qu'elle s'ouvre et qu'elle répond des messages assez longs. Donc ça, c'est quelque chose que visuellement on peut voir. Après. Ça, c'est quelque chose de super important en setting. C'est une pratique sales en général, mais c'est le fait de mettre des pré-cadres dans ces questions. Parce que constamment, il faut poser des questions. Parce que si on finit par une phrase affirmative, le risque, c'est que le prospect nous lâche. Il a vu ce qu'on lui avait dit, mais on ne lui a pas posé de questions, donc il ne nous répond pas. Et là, on doit relancer et on vient créer un peu de friction. Donc déjà, toujours poser une question. Et donc, dans ces questions, ça va être de mettre des cadres. Donc, ces cadres, ça va être juste que je comprenne bien, simplement que je situe, simplement pour bien comprendre. Par exemple, ça va pas être vous faites quel niveau de chiffre d'affaires à l'heure actuelle ? Là, si je pose cette question, là, le prospect peut se dire pourquoi cette question ? Et si je dis juste pour que je situe, vous faites quel niveau de chiffre d'affaires à l'heure actuelle ? Il va pas me poser pourquoi, parce que c'est juste pour que je situe. Donc ça, c'est vraiment tous ces cadres-là, simplement pour bien comprendre, juste pour que je situe. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour les questions en setting, parce que c'est assez difficile, vu qu'on est par de l'écrit, en fait. À l'oral, c'est assez facile de transmettre la sympathie par le ton de la voix, par la posture, etc. Mais quand on est par de l'écrit, c'est plus difficile. Donc, pour casser cette friction, mettre des pré-cadres et l'usage de l'humour, c'est vraiment, vraiment important pour donner un autre élément. Un autre élément aussi qui est assez important, c'est de relire ses conversations à haute voix. C'est-à-dire que la personne, quand elle va répondre à un pavé, des fois, on va lire un peu en diagonale et on va rater des éléments importants. Donc, on voit le message, je le lis à haute voix sans forcément, en chuchotant, par exemple. Aussi, quand on envoie un message, encore dans cette idée d'empathie et de se mettre à la place de son interlocuteur, j'envoie tel message, ok, je suis Bruno, mon prospect, je reçois tel message, est-ce que j'ai envie d'y répondre, est-ce que ça crée de la friction, vraiment toujours se mettre dans la peau de l'autre. Donc je dirais, voilà, lire les conversations à haute voix, c'est important.
Ok, trop bien. Voilà. Bah, déjà, c'est déjà pas mal, en tout cas, comme information et tout ça. Tout à l'heure, tu as parlé de justement dire ça peut être une machine à gaz. Tu gères quand même 4 comptes, le tien, celui de Benoît, Dubo. Je mettrai les noms en commentaire si vous voulez suivre ces personnes-là. Du coup, Christian et Jules Gardère, qui est directeur commercial. Donc, ça a beaucoup d'informations. Comment tu gères toute cette data ? Parce que j'imagine que tu ne gères pas ça sur ton LinkedIn. C'est quoi le lien avec votre CRM ? Ouais. C'est quoi ta méthode de suivi, globalement ? Tu m'as dit que tu avais 3000 personnes, 3000 discussions enclenché, ouais. Ou en tout cas démarré, ou en tout cas initié. 3000, c'est énorme.
Ouais. Alors, on a le fameux CRM, donc c'est un. On utilisait pendant un petit moment l'outil Breakhold que tu as reçu, je crois, dans tes premiers podcasts.
Un super outil,
qui est vraiment, vraiment top. Mais on a bricolé notre propre outil sur Airtable. Et donc, en fait, comment ça va se suivre ? C'est notamment pour. En fait, on a. Enfin, toutes les conversations qui sont engagées, toutes les conversations qui sont en cours, toutes celles qui sont en follow-up, elles sont dans un pipe. Ce qui me permet de savoir où j'en suis avec tel compte. Pareil aussi, on a intégré la partie setter. Donc là, pour le cas de Scalesia, je suis le seul setter, mais on peut avoir une équipe commerciale avec 5 setters. Donc on peut savoir quel setter, pardon, quel setter engager la conversation. Donc ça, c'est vraiment avoir un tableau de suivi, c'est hyper important. Et ensuite, ça va être de fonctionner en bloc. Par exemple, voilà, je me dis aujourd'hui, il faut que j'engage 25 conversations qualitatives où vraiment je viens de faire une approche ultra personnalisée. Donc, parce qu'en fait, on a vite fait d'être... de vouloir être partout et nulle part. Voilà, je réponds à tel message sur tel compte. Ok, je regarde les commentaires sur telle publication pour engager des conversations. Et c'est le meilleur moyen d'être improductif. Donc l'idée, c'est vraiment de fonctionner en bloc. Moi, je me dis, voilà, j'ai 25 conversations engagées aujourd'hui. Je vais les faire à la suite. Ensuite, j'ai 150 conversations qui sont en cours avec ce compte-là. Eh bien, je vais les relancer tout en même temps. C'est vraiment, ouais, l'idée, c'est de fonctionner par bloc. Je vais gérer les followers, les nouveaux followers de Jules, je vais tous les faire d'un coup. Et ça, c'est pour ne pas que ça se perde, parce qu'on a vite fait de toutes ces conversations en cours qui peuvent durer trop longtemps. Ça va être de fonctionner à la tâche. Moi, je fonctionne à la tâche. Le lundi, je sais que je relance les conversations en cours de Benoît. Le mardi, je sais que je gère les nouveaux followers qu'il a. Le mercredi, je relance les conversations de Jules et les miennes. Enfin, voilà, c'est vraiment un fonctionnement à la tâche. Et oui, le setting, on peut vraiment s'y perdre et donner beaucoup d'énergie sans être efficient. Donc voilà, vraiment fonctionner à la tâche et fonctionner en bloc. C'est vraiment les deux meilleurs conseils, je pense.
Ok, j'aimerais te poser une question. Alors, je ne sais pas si en fait, parce que ça dépend forcément de la taille de l'entreprise. Ok, toi, tu fais du setting. Ton job, c'est de déclencher des conversations et d'aller booker un rendez-vous. À côté, tu as, imaginons, dans une boîte classique, tu as des SDR, des BDR, qui eux, leur objectif, c'est d'aller faire de la prospection classique outreach, ouais. Notamment sur l'outbound setting et l'outbound classique de prospection. Est-ce que parfois, il peut y avoir des frictions? Comment ça peut s'organiser? Je ne sais pas si tu as le cas, mais si tu n'as pas le cas, comment, à ton avis, ça pourrait s'organiser? Je ne sais pas, par exemple, on prend l'exemple, on est dans la même équipe, toi, tu es 7 heures. Mm-hmm. Moi, je suis BDR, j'ai une liste de boîtes. Il se trouve que tu as identifié qu'il y a quelqu'un qui connaît plus ou moins Scalesia, il faut aller le chercher. Ça se fait en parallèle? Comment vous faites, en fait, sur la partie rendez-vous? Comment tu pourrais faire? Je pose la question, alors... c'est en gros, est-ce que pour les auditeurs, est-ce que maintenant il faudrait, parce qu'en France on peut être un peu caricatural comme ça, que des 7 heures maintenant, dire en fait c'est terminé les BDR, etc. Mmh. Ou voilà, comment ça marche ensemble, comment ça vit ensemble.
Ouais, alors il y a le sujet des doublons, forcément ne pas recontacter quelqu'un qu'un SDR, BDR peut avoir déjà contacté. Donc là pour expliquer, moi je parlais d'un CRM à part, donc le Airtable, dans lequel en fait c'est un CRM spécial setting. C'est-à-dire que cette personne, là, les 3000 personnes, je n'allais pas mettre les 3000 personnes dans le HubSpot parce que je leur ai envoyé un premier message sur lequel je n'ai pas encore eu de réponse. Donc c'est, en fait, je ne vais les rentrer dans le HubSpot, donc là vraiment on a toute notre base de clients, qu'une fois que le rendez-vous est booké. Donc voilà. Et ensuite, du côté SDR, donc tout est référencé dans HubSpot, donc dès que quelqu'un. Il y a un mail qui est parti ou un appel, un call qui a déjà été passé avec cette personne-là. En fait, moi, avant d'engager une conversation, hop, je vois telle personne qui a commenté la publication. Je vois qu'il est qualifié. Juste avant, je copie-colle son nom, son prénom dans le HubSpot avant d'envoyer un message. Et si je vois que cette personne n'est pas encore dans le HubSpot ou qu'aucun SDR, BDR l'a contacté, là, je me dis, OK, c'est bon, je peux y aller, personne n'est dessus. Donc voilà, c'est vraiment fonctionnement par HubSpot. C'est un petit check qui prend 5 secondes, je copie-colle sur mon écran à côté et ça évite les doubles, en fait. C'est déjà arrivé et c'est pas
dramatique parce qu'en fait, t'es plutôt dans une posture où tu poses des questions. Bon, et puis c'est peut-être des temps plus longs. Enfin voilà, mais OK. Ouais. Très clair. Du coup, on a parlé de cette partie organisation, cette partie méthode de suivi, lien avec le CRM. Donc très intéressant. C'est-à-dire que toi, du coup, tu prends le rendez-vous, ça repart chez un AE qui va du coup prendre les échanges. Finalement, toi, tu vas pas rentrer comme un BDR sur la partie outbound dans la phase de découverte. C'est vraiment une autre personne qui va reprendre les éléments. Toi, t'as juste un super intent data, c'est-à-dire voilà, il y a cette problématique là et il est OK pour en parler avec quelqu'un de Scalesia. C'est ça?
Ouais, c'est ça globalement. Après j'ai commencé à prendre des découvertes aussi. Ça, enfin peu importe hein, en fait, ça peut être du full cycle où je vais chercher le lead et faire le rendez-vous découverte, la démo, puis le closing, mais ça peut être aussi vraiment on peut dissocier setting closing, mais on peut aussi le faire le setter, le closer peut être la même personne. Ça va vraiment dépendre.
Ok. Maintenant, j'aimerais aborder justement comment on sait qu'on est un bon setter? Comment on sait que ça marche? Tu connais aujourd'hui les préoccupations des entreprises. Voilà, ce qu'elles veulent, c'est voir du résultat assez rapidement. C'est quoi les KPI que tu regardes pour savoir si tu fais un bon boulot au niveau setting?
Alors, bah, y a un tracking de data. C'est pour ça aussi que ce Airtable est vraiment pertinent, parce qu'on voit toutes les conversations qui ont été engagées et combien sont parties en rendez-vous. En fait, donc ça, c'est une première data. Mais après, il n'y a pas que le volume de rendez-vous envoyé, il y a aussi la qualité des leads envoyés. Donc, ce qui compte vraiment à la fin, c'est le nombre de leads qui sont closés, l'argent qui arrive sur le compte de la boîte. Donc, si on envoie 100 rendez-vous, mais qu'il y en a 90% qui sont non quali, c'est pas forcément une bonne data de se dire ah, j'ai envoyé 100 rendez-vous ce mois-ci. Donc, vraiment, je pense que la data la plus importante, ça va être le montant qui a été closé, qui provient du setting à la fin. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais
si ça répond à ma question, mais j'aurais allé un peu plus loin. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, comment tu te donnes des objectifs? Alors, parce que sur la partie sales, en gros, dans un process de prospection classique, tu vas avoir, toi, tu es BDR, je vais te dire... Ok, moi, ce que je veux, c'est aujourd'hui, c'est que tu génères 5 rendez-vous par semaine. Je le sais que ça marche parce que on a un historique suffisamment pertinent pour pouvoir savoir, etc. Setting, bon, ta conversation, elle peut durer 6 mois, elle peut durer 3 semaines, elle peut durer juste 3 jours. Ça peut être compliqué parce qu'on n'est pas dans un... J'en sais rien, peut-être que c'est le cas, mais on n'est pas dans un combien de calls je dois passer pour pouvoir avoir... X rendez-vous, combien de mails je dois envoyer pour pouvoir avoir X rendez-vous. Donc voilà. Donc quels sont les objectifs que tu te donnes? Est-ce que tu arrives maintenant petit à petit, parce que je sais que c'est un process itératif chez Scandinavia, à ce pôle, mais est-ce que tu arrives aujourd'hui à un peu avoir cette data-là, tu vois?
Ouais. Alors ça, justement, ça va dépendre du secteur d'activité de la personne, mais l'idée, c'est de se lancer dans le setting. Et on va voir ressortir avec du volume des datas qui vont ressortir. Nous, par exemple, je sais que sur 10 conversations engagées, donc le premier message qui est parti, j'en ai 2 qui vont partir en rendez-vous. Donc ça, c'est... on est à taux de réponse, je l'avais noté, on est à 67% de taux de réponse. Donc c'est-à-dire que j'envoie un premier message, j'ai 67% des personnes qui me répondent. Et sur ces 100% à qui j'ai envoyé un message au début, j'en ai à peu près 20-21% qui partent en rendez-vous. Donc en fait, c'est à force dès que vous aurez une data un peu plus établie, vous pourrez vous dire bah voilà, je mets tel niveau d'effort, j'engage 100 conversations ce mois-ci, je sais que je vais avoir à la fin 15 rendez-vous qui vont tomber. Moi, ce que j'essaye de faire par semaine, c'est d'engager une centaine de conversations qualitatives. Donc là, on ne parle pas de conversations où je mets des pièces dans Wallaxy et je balance en volume. C'est vraiment 100 conversations pour lesquelles je suis allé sur le site de la personne, pour lesquelles j'ai vraiment posé une question qualitative pour laquelle il est quasiment impossible de ne pas répondre. Donc c'est plus voilà, se fixer des objectifs, parce qu'on peut se dire, voilà, ce qui est bien, c'est un avantage aussi, un inconvénient, le setting, on peut vraiment le faire en asynchrone, c'est-à-dire, voilà, j'ai 15 minutes de trou entre ma réunion là et ma réunion de cet après-midi, je vais prendre du temps pour répondre à mes messages, donc c'est positif là-dessus, mais il ne faut pas non plus se laisser déborder, et il faut quand même se bloquer des créneaux. On l'a vu avec les clients qu'on a pu accompagner, ceux qui font performer le plus, c'est ceux qui se disaient voilà, je prends 20 minutes par jour l'après-midi pour engager des conversations. Donc c'est important d'être discipliné sur cette partie-là et vraiment avoir un objectif. Au moins, l'output, vous le verrez avec le temps, c'est-à-dire voilà, je sais que quand j'engage tant de conversations, à la fin, je vais avoir tant de rendez-vous. Mais au début, ce que vous contrôlez, c'est l'input. Donc vraiment dire voilà, j'engage 20 conversations par jour et plus j'en ferai, plus je vais m'améliorer et plus j'aurai des chances de booker des rendez-vous. En fait.
Ok, et du coup, tu disais entre 2-3 rendez-vous, tu peux répondre à tes messages, etc. Tout à l'heure, tu parlais du fait que ça doit être une expression écrite plus parlée que du coup, hyper rédigée. Tu as des templates en fait, déjà tout prêts ou en fait, c'est à chaque fois, c'est de l'adaptation, le setting. À chaque fois, c'est du personnalisé, à chaque fois... voilà, j'arrive pas forcément à savoir est-ce que tu as un peu des trucs un peu bon qui reviennent tout le temps. J'imagine que tes premières questions oui, mais est-ce que au fur et à mesure c'est quoi, c'est 15 minutes, mais c'est comme si tu répondais à tes messages Instagram?
Ouais. Alors, j'ai un tool qui me fait gagner beaucoup de temps. C'est une extension Chrome qui s'appelle Magical. En fait, ça me permet d'écrire des shortcodes. Par exemple, j'écris ABC sur mon clavier. Eh bien, ça vient m'écrire une suite de mots, en fait, un texte que j'ai préenregistré. Et ça, c'est quelque chose qui me fait gagner un temps monstre, je pense, chaque jour. D'ailleurs, ils mettent le temps gagné à chaque fois qu'on l'utilise. Donc, ça incite encore plus à utiliser l'extension.
Ah, très cool.
Ouais, ça, c'est très cool. Et donc, oui, en fait, les messages se ressemblent quasiment tous. Et là, maintenant que j'ai réussi un peu à templatiser, où il y a vraiment ce travail de se casser un peu la tête sur le premier message, à dire, voilà, je vais envoyer un message qualitatif, personnalisé à mon prospect. Mais après, par la suite, finalement, la conversation, ça va quasiment un peu être tout le temps la même chose. Donc, faut adapter un petit peu, mettre le prénom de temps en temps, ou modifier certains trucs. Mais la base, le corps des messages, c'est quasiment tout le temps la même chose. Donc, cette extension, en fait, me fait gagner un temps fou. Et aussi, ça ne me fait pas non plus perdre trop de temps parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut écrire comme on parle, mais il faut aussi pas trop réfléchir. Faut se mettre dans une posture. Voilà, je suis sur mon ordi ou je suis sur mon téléphone, je suis sur LinkedIn, je suis en train d'échanger avec un autre entrepreneur. Il faut pas se casser la tête à prendre trop de temps à dire, voilà, je vais poser cette question-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de discuter, en fait, d'aller. Déjà, ça fait gagner du temps, et en plus de ça, le prospect a moins l'impression que c'est de la prospection.
Ouais, complètement. Je vais te poser une question parce que je suis curieuse. Est-ce que tu t'arrêtes là, généralement, au moment où c'est le rendez-vous, ou est-ce que toi, tu continues les conversations? Je suis en train de me dire, parce que ça peut être intéressant de continuer les conversations avec des gens. Typiquement, est-ce que ça t'arrive de dire, voilà, le client, il est peut-être rentré, il est peut-être écouté converti, ou au contraire, pas converti? Est-ce que tu t'organises ça? Genre, est-ce que ça se passe bien avec Scalésia? Est-ce que vous êtes content? Enfin, voilà quoi. Tu gardes la relation ou pas?
Alors, pendant un certain temps, en fait, dès que le rendez-vous était parti, enfin le prospect était parti en rendez-vous, c'était de l'ordre du business stratégiste de le suivre, et c'est toujours le cas. Mais maintenant, en fait, on a vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de prospects, soit qui étaient non qualifiés à l'instant T, soit ils sont partis en follow-up, ou ils ont eu la démo, mais c'était pas forcément le bon moment. Et en fait, là, depuis quelques semaines, je les réactive. Voilà, je leur envoie Hello X. On a sorti un contenu sur tel sujet, voilà, comment, enfin, voilà, on échange un petit peu. Et en fait, souvent, après, je pose la question, bah, d'ailleurs, comment s'était passé ton échange avec Alexandre, avec Antoine? Et derrière, ça permet, voilà, d'avoir un peu le pain. Ah, bah, on n'avait pas été au bout parce que X, Y, Z. Ah, ok, d'accord. Et là, du coup, moi, je peux envoyer au business stratégiste quelle était l'objection. Parce que souvent, ce qui est bien aussi,
Souvent,
c'est
il l'a pas.
qu'avec.
Il l'a parfois, il l'a pas. Hein. S'il est pas
Parfois,
bon, il l'a pas forcément. Ou s'il est
ouais, c'est
bon.
ça. Non, mais il peut ne pas l'avoir, mais surtout le fait de discuter avec un Benoît Dubosc, un Jules Gardère, bah, il peut plus facilement s'ouvrir. Ah, bah, en fait, ouais, c'est parce que bah, niveau trésor, c'était compliqué, ou bah, là, on va lever des fonds. Donc, on a des informations qu'on n'avait pas forcément. Et ce travail de follow-up, ça permet des prospects qui restaient un peu morts, qui répondaient plus au business stratégiste, de fait de les recontacter avec, enfin, de là où il vient, vraiment de la source. Ça peut permettre, enfin, là, j'ai eu des personnes qui sont reparties en rendez-vous, qui sont en fait. On remet des pièces dans la machine et ils repartent dans tout le process commercial. Donc vraiment, ouais, ne pas se dire, voilà, mon prospect est parti au rendez-vous, c'est fini, c'est plus de ma responsabilité. Déjà, le nurturer jusqu'au rendez-vous, c'est important. Mais aussi, après rendez-vous, ne pas hésiter à se mettre des rappels sur le Airtable. Là, on s'est mis des rappels. Enfin, je reçois, c'est synchronisé à Slack et je reçois des notifications pour me dire, voilà, faut que je relance tel prospect. Donc c'est important de les suivre dans la durée, malgré tout. Ouais.
Ok,
Je reprends ta question.
alors justement, ça va être ma dernière question. C'est justement, tu disais, c'est très important de les nurturer jusqu'au rendez-vous. Une des problématiques, on l'a dit plusieurs fois ici, mais c'est la question du no-show. Aujourd'hui, est-ce que tu as des éléments que tu as mis en place pour justement réduire ce no-show? Tu fais un petit sourire comme si. Si tu n'as pas envie de
Ouais.
donner tes secrets, il n'y a pas de souci,
Non,
hein,
non, non,
aucun
si, si, si,
problème.
si.
Je
Si,
leur
si, c'est
dirais,
qu'on a.
allez voir Scalésia, c'est tout.
C'est ça. Non, non, c'est qu'on a une approche qui fonctionne plutôt bien. Bah, déjà, il y a le nurturing, hein, tout simplement, le fait de à J plus 3, J plus 5, d'envoyer une ressource. Bah, forcément, on reste top of mind pour le prospect. On est là, on est présent, on lui délivre de la valeur. Donc, ça, déjà, ça réduit drastiquement le no-show. Et il y a un message que j'envoie, qu'on voit qui fonctionne bien. Ça peut créer un petit peu de friction, mais ça vient vraiment réengager le prospect. Je vais prendre le message exactement. C'est. Hormis s'il y a un tsunami ou un ouragan, haha, est-ce que je peux compter sur ta présence pour cet échange? Et là, le prospect, en fait, bon, ça va dépendre. Quand j'ai des prospects un peu plus âgés ou qui ont été très froids dans la conversation, je vais pas forcément le mettre. En fait, c'est du feeling avec la personne, mais je le mets 80% du temps, je pense. Et soit ça fait rigoler la personne, ou soit bah, oui, je serai là. Et là, en fait, le prospect, s'il ne se pointe pas sur le rendez-vous, il est complètement incohérent avec lui-même. Il s'est engagé, on lui a posé la question, il a dit oui, je serai là. Donc ça, c'est une question qui fonctionne bien. On avait testé des approches différentes et c'est celle-ci qui fonctionne le mieux.
Donc, ok, voilà. Trop cool. Ok, non mais c'est bien parce qu'effectivement l'idée c'est que bah tu peux déclencher plein de conversations et à la fin avoir perdu grave de temps parce que les gens se pointent pas ou les gens ont l'impression parce qu'il se passe tellement de temps en fait entre le moment où t'as dit oui et le moment du rendez-vous, tu dis mais en fait au final pourquoi j'ai pas, parce que à ce stade-là il faut aussi rappeler que t'as toujours pas parlé du produit, t'as juste parlé de c'est quoi tes problématiques, bon voilà, enfin t'as pitché rapidement, t'as dit voilà les problématiques, en fait en gros t'as même pas pitché, t'as dit voilà les problématiques qu'on adresse, le comment ils en savent rien, donc c'est à ce stade ils sont juste en se disant en fait tu vends le fait que ça va être cool cette phase de découverte parce que probablement ils vont résoudre peut-être un problème et donc il faut que tu sois présent etc dans leur tête. Ok, je vais c'est te poser une, la dernière des questions avant de conclure. Toi aujourd'hui, c'est quoi ta vision ? Là, c'est un peu plus macro. J'aime bien parler aussi de choses. C'est quoi ta vision justement dans la prospection, la place du setting en B2B aujourd'hui ? Vu que vous avez testé aujourd'hui chez Scalesia, que vous accompagnez aussi des boîtes là-dessus. Pour toi, c'est quoi ? C'est caricaturalement, ça va remplacer la prospection outreach ? Ça va la compléter. C'est quelque chose qui peut marcher que dans certains secteurs d'activité. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est quoi ta réflexion là-dessus après avoir testé ?
Alors, un petit peu comme tout produit, plus il est démocratisé, plus il est facile d'accès, moins ça marche. On le voit avec l'outreach LinkedIn, par exemple, où c'est quelque chose qui a été très facilité, notamment par des boîtes comme Wallaxy. Donc, on voit que ça fonctionne beaucoup moins. Après, ça fonctionne toujours malgré tout. Il faut juste mettre plus de volume. Tout dépend du coup dans quel secteur d'activité on est. Si on est sur un produit vraiment mass market et qu'on a une liste de prospects de 200 000 personnes, on peut se permettre d'en cramer quelques-uns. Par contre, si on est dans un secteur d'activité où on est un peu plus niché et nos clients potentiels, et ça représente 5 000 personnes dans tout notre marché, cette approche setting est beaucoup plus pertinente parce qu'on vient vraiment faire du personnalisé de l'ABM comparativement à de l'outreach. Donc, je ne pense pas que ça vienne éteindre complètement l'outreach LinkedIn, mais en tout cas, surtout avec l'explosion de l'intelligence artificielle, tous les tools qu'on voit dans tous les sens, là, même quand j'envoie des messages très personnalisés, les personnes me disent ça a été écrit avec une IA. Enfin, voilà, c'est vraiment.
C'est vrai, ça. C'est infernal. Même moi, en fait, je prends le temps de répondre à. Enfin, quand on me demande, j'envoie un vrai message à chaque personne. Ouais. Et je l'envoie à la main, quoi. J'ai pas d'automatisation. Et en fait, les gens disent ah, c'est trop cool, t'as automatisé ça. Non.
Ouais, c'est ça. Mais moi c'est pareil.
Tu me vexes parce que j'ai mis une heure à répondre à tout le monde, quoi.
Ouais, donc, c'est ça. Ouais. Donc ouais, il y a cet aspect-là qui entraîne encore plus de difficultés parce qu'on a l'IA qui est dans la tête de tout le monde et tout le monde est méfiant de tout, en fait. Donc voilà. Après, ça s'applique plus à certains secteurs d'activité, parce que le setting, malgré tout, c'est un mode de prospection qui est chronophage, c'est-à-dire qu'on vient engager des conversations pour lesquelles on n'a pas forcément une réponse tout de suite. Ça peut être des conversations qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois parfois. Donc, toute cette énergie-là, en fait, ça ne marche pas, par exemple, pour du SaaS. Si je vends un SaaS à 40 euros, sauf si on vient toucher toute une boîte et que ça fait un abonnement, un deal vraiment important, mais en fait, c'est plutôt réservé au high ticket, en fait, le setting. C'est-à-dire que si je me dis à chaque client que je close, ça ramène 20 000 euros à ma boîte ou 50 000 euros. Bah là, c'est une approche qui est à 100% pertinente parce que l'énergie qu'on vient mettre pour avoir le prospect, en fait, il est rentabilisé derrière. Donc, je dirais que ça s'applique plus à l'entreprise de service plutôt que du SaaS.
Ok, écoute, merci énormément, Flavien. Merci pour toute la valeur que tu as partagée. Merci d'avoir maintenu l'invitation malgré ton problème de gorge. C'était parfait, ouais. C'était clair, c'était fluide. Écoutez, bah, du coup, je mettrai en fait pas mal l'information de tout ce que tu as donné. Je mettrai le lien aussi également de ton profil LinkedIn parce que tu partages énormément de choses. Tu partages aussi beaucoup de choses très concrètes. J'aime beaucoup en fait ton contenu parce qu'il y a très peu ça en fait en France. Tu vois quelles approches j'ai faites, etc. Ça fonctionne quand je fais ça. Voilà, etc. Et voilà, je trouve que ça détonne en fait, en tout cas dans mon fil d'actualité. Donc voilà, je mettrai toutes les informations. Écoutez, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez avoir plus de contenu sur comment booster vos ventes avec de la prospection, du closing, etc., abonnez-vous à votre plateforme de podcast préférée et aussi également à la chaîne YouTube que je viens de lancer. See you. Ciao.
Merci. Salut. Ciao.
Ciao, ciao. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.